et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie et lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Vous trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes sur la plus rebelle des radios, vous êtes bien sûr Radio Canu, il est l'heure d'un petit Canu Info. En ce jeudi 18 septembre, nous aurons beaucoup de sujets. Nous parlons d'Israël-Palestine, de la Syrie, nous aurons notre rubrique Ni Dieu ni Maître. On parlera un petit peu d'e-book de presse en Russie, on parlera aussi de spectacles et de censure. On parlera de la France, hein, parce que bravo la France, elle fait les super trucs. Puis on parlera évidemment un petit peu de capitalisme, et puis si on a le temps, on terminera par une petite page plus écolo. Alors aujourd'hui, le grand sujet d'actualité, c'est ce qui se passe en Écosse.
Oui, puisque les Écossais votent sur cette question posée lors de ce référendum, pour ou contre l'indépendance, avec des sondages qui étaient au coude à coude jusqu'à aujourd'hui, le nom... quelquefois en avance, le oui, quelquefois d'autres, avec de la, pas mal de propagande des deux côtés, et puis les dernières propagandes ridicules quand même venant du Premier ministre anglais, hein, qui a essayé de faire une sorte de prière, ne partez pas s'il vous plaît, restez avec nous. C'est quand même assez ridicule pour juste une Écosse qui est là depuis, qui est dans le Royaume-Uni là depuis un peu plus de 300 ans, donc ça fait pas longtemps à l'échelle de l'histoire du pays. Voilà, il y a eu, comme d'habitude dans ce genre de truc, un peu de désinformation, un peu de propagande, chacun est allé de ses idées. Grosso modo, ce qu'on peut noter, c'est que notamment les Anglais qui ont essayé de faire croire que ça allait être la panique générale si jamais l'Écosse choisissait de devenir indépendante, que l'économie allait s'écrouler, que les retraités allaient plus avoir de retraite, tout ça. Dans la réalité, c'est pas ça du tout. Ça sera peut-être difficile sur certains plans, parce qu'il faut remettre une nouvelle machine en œuvre, etc., si jamais ils choisissaient l'autonomie. Ou l'indépendance plutôt, mais tout est faisable et c'est juste un choix politique. Ça remet pas tant de choses que ça en cause. C'est juste qu'ils décident ou non d'être indépendants. Sur la monnaie, ils pourraient même en choisissant l'indépendance garder la livre sterling.
Certains ont l'air de vouloir privilégier puisque...
parce que ce sera très facile à faire. Ils font essentiellement du commerce d'ailleurs avec les Anglais, donc ça sera tranquille. Hein. Il y a pas de souci. C'est pour ça que voilà, la propagande du non a été un peu limite à la fin, et c'est d'ailleurs peut-être ça qui a fait que dans les sondages le oui a remonté parce que le non était ridicule, alors qu'ils auraient pu appuyer sur autre chose, hein, l'idée d'essayer de faire peur aux Écossais. Voilà, bon, pour l'instant, aucun des deux n'est gagnant. Les sondages étaient vraiment au coude à coude. Et le résultat ne sera pas connu avant demain matin, parce qu'il n'y a pas de sondage sorti des urnes. Et, ils arrêtent de voter vers 22h, heure locale. Et donc, voilà, demain matin, normalement, il y aura le résultat pour savoir si l'Écosse choisit d'être indépendant ou pas. Quoi qu'il arrive, l'Écosse a déjà gagné l'indépendance, hein, puisque même si ça ne se fait pas cette fois-là, d'année en année, ils sont de plus en plus autonomes des Anglais. Et voilà, c'est, même si c'est, ça gagne, le oui gagne pas, c'est une nouvelle étape vers encore plus d'autonomie et vers sûrement un jour une indépendance, quoi qu'il arrive.
Oui, parce que David Cameron a beaucoup donné. Il a d'ailleurs là donné des accords. Tu parlais tout à l'heure du rapport économique. C'est vrai que c'est une question qui a été quand même au centre des débats. Il faut savoir que Faout, il y a quand même 200 patrons écossais qui se sont placés pour l'indépendance, puisque effectivement, comme tu le disais, beaucoup de gens disent que ça, l'économie va s'écrouler s'il y a une séparation. Alors que ben il y a des patrons qui sont montés au créneau pour dire qu'eux ils sont pas d'accord. Ils pensent que c'est un poids. D'avoir une économie liée qui pourrait se développer, acquérir plus de force en étant indépendant. Donc il y a aussi voilà, dans cette économie des gens qui sont pour cette indépendance. Et comme tu le disais, on a vu M. Cameron quand même largement ridicule, pas loin d'être à genoux, hein. On a pu voir cette espèce de serment présenté à la tête du Daily Record dans lequel, avec ses comparses, ils ont mis leurs petites photos sur une espèce de parchemin jauni. Là, on était quand même pas loin du ridicule, parce que qu'il y ait un texte qui soit sorti, pourquoi pas, mais cette mise en scène était quand même assez nulle, il faut le dire. Voilà, il s'est baladé quand même, David Cameron, toute la semaine, hein, pour essayer de prêcher sa bonne parole, en parlant de divorce douloureux, en expliquant qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Voilà, lui aussi, hein, il aime les Écossais, l'amour est très fort chez les politiques en ce moment. Voilà, donc comme tu le disais, demain matin, on aura tous et toutes les résultats.
Ce qu'on notera, c'est qu'il y a quand même aussi une bataille politique, pas simplement une bataille territoriale ou dite nationaliste, entre guillemets, puisque une partie des Écossais qui défendaient Louis défendait l'idée de pas être de la même couleur politique de Cameron, hein, cette droite réactionnaire et libérale en même temps, que défend Cameron et que défendent d'ailleurs aussi les travaillistes en Angleterre. Voilà, il y a aussi l'idée d'être plus à gauche que ce qui se passe en Angleterre. Ils étaient très anti-Thatcher quand même. Donc voilà, le débat a été relativement complexe et il y a plein d'arguments des deux côtés. Et moi, j'ai trouvé grosso modo les arguments de ceux qui voulaient l'autonomie ou l'indépendance carrément avec ce référendum étaient quand même plus judicieux que ceux de l'autre côté qui s'accrochaient à une espèce de vision idéalisée de la relation avec l'Angleterre qui a jamais été non plus particulièrement bien et égalitaire en tout cas. Voilà, bon, donc réponse demain matin. On retourne en Israël-Palestine juste avec un petit mot très bref. Mais juste pour vous dire, voilà, un petit exemple de ce qui se passe au jour le jour dans la Cisjordanie, puisque cette fois on va en Cisjordanie, Gaza, de toute façon, c'est une catastrophe humanitaire qui est en train de prendre le pas sur la catastrophe de la guerre. On va parler de Kfar Kadoum, je prononce sûrement pas bien, mais je m'en excuse. Donc ça s'est passé jeudi soir, la semaine dernière, après le Canu Info. Six villageois qui étaient branchés sur des concentrateurs d'oxygène dans un hôpital ont été évacués hyper rapidement. Pourquoi ? Parce que l'hôpital de cette région a été coupé d'électricité. Et pourquoi ? Bah parce que les colons israéliens ont coupé l'électricité. Donc ça voilà, c'est un peu les embrouilles, les enquiquinements permanents des Palestiniens en Cisjordanie. Alors tout ça a été rajouté au fait que tous les vendredis à Kfar Kadoum, il y a une manifestation contre cette colonie bien évidemment illégale de Kedoumim, hein, qui a le pouvoir de couper l'électricité puisque elle fournit l'électricité aux Palestiniens autour. Du coup, quelqu'un s'était amusé à appuyer sur le bouton de coupure d'électricité pour les Palestiniens, c'était sympathique. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent autour de Kedoumim, cette colonie, et le village palestinien à côté. Par exemple, la route principale qui relie le village à Naplouse, grosse ville palestinienne, et ben depuis 2003, les Palestiniens n'ont plus le droit de l'utiliser. Elle est réservée aux colons israéliens. Donc voilà. Le vendredi soir, ils avaient plutôt le jeudi soir, les Palestiniens avaient mis des rochers sur la route, et le vendredi matin, donc les bulldozers militaires sont venus enlever les rochers de la route. Pourtant, voilà, la région est bien une région de Cisjordanie, mais l'armée israélienne vient gérer. Alors les rochers, c'était pour empêcher, bien évidemment, les militaires de venir commettre les exactions dans le village et notamment d'embêter les manifestants, puisque comme je l'ai dit, le vendredi, après la prière, il y a à chaque fois des manifestations. D'ailleurs, ce jour-là, après que les bulldozers militaires aient dégagé la route, les militaires ont pu arriver dans la ville et tabasser, lancer des grenades lacrymogènes sur les Palestiniens qui manifestaient pour avoir le droit d'aller sur la route et de plus avoir cette colonie illégale. Voilà, il y a même eu un blessé ce jour-là et l'armée s'est retirée en début d'après-midi, comme ça arrive régulièrement le vendredi, donc après avoir un peu embêté les manifestants. Donc voilà, c'est la vie au quotidien en Cisjordanie, loin de la catastrophe humanitaire de Gaza. La vie est pas beaucoup plus facile pour les Palestiniens. On reste dans la région, on va aller en Syrie. Normalement aujourd'hui devait se prononcer, on n'a pas le résultat encore. C'est le Sénat américain qui devait se prononcer pour donner son feu vert à un plan de soutien aux rebelles syriens pour les aider à combattre les méchants djihadistes du groupe de l'État islamique. Alors le Sénat devrait le faire puisque la Chambre des représentants, qui est dominée par les Républicains, a approuvé hier le plan destiné à entraîner et équiper les rebelles syriens. Les rebelles considérés comme modérés. Vous savez, ces rebelles qui étaient notamment pour la partie des rebelles pro-démocratie, qui étaient très forts au début de la guerre civile, hein, il y a un peu plus de 3 ans, et que les Américains comme les autres ont décidé de pas aider. Et donc maintenant que c'est la catastrophe, on va aider des gens qu'on considère comme modérés. C'est quand même le ridicule de la situation portée entre autres par Barack Obama, puisque c'est la mise en place du premier volet de sa stratégie anti-djihadiste qui a été présentée la semaine dernière, avec l'aide de l'Arabie Saoudite, hein, qui bizarrement a beaucoup financé le djihad et qui aujourd'hui se sent un petit peu merdeuse, on va dire entre guillemets, en tout cas qui fait semblant d'être dans l'autre camp aujourd'hui. Donc voilà, il y a aussi l'idée que les Américains bombardent, hein, puisque ça a été fait. D'ailleurs, l'État islamique a commencé à bouger, hein, les positions en Syrie pour essayer de se protéger des bombardements américains. Mais ils continuent les prises de pouvoir, les prises de territoire et les prises de villages, puisque ils ont attaqué le nord vers la frontière turque. Ils sont emparés de 16 villages ces dernières 24 heures. Notamment Kobane, hein, c'est le nom en kurde, du village, qui est la 3e ville kurde de Syrie. Et donc voilà, d'ailleurs les correspondants là-bas, notamment l'Observatoire syrien des droits de l'homme, réexpliquent que l'État islamique est toujours très très fort. Ils ont des armes lourdes, des chars, une grosse artillerie. Et donc voilà, et ils s'en reprennent donc aux Kurdes. En sachant qu'on rappelle qu'en Irak, les mêmes djihadistes, eux, ont reculé un tout petit peu devant les Kurdes un petit moment, et à un moment ont réavancé, les Américains ont rebombardé, donc du coup les Kurdes ont repris un peu des positions. Les Kurdes qui sont maintenant soutenus, notamment l'Allemagne a décidé d'envoyer des armes, ils n'ont pas encore envoyé. Donc voilà, on rappelle aussi qu'en Irak, ça se passe pas très loin de Bagdad, hein, c'est à 50 km au sud de Bagdad, que les troupes irakiennes se battent contre les djihadistes, et grosso modo, ils n'arrivent pas à l'emporter contre les djihadistes. Et le truc drôle du jour dans cette guerre, c'est le président iranien Hassan Rouhani, qui, on rappelle, est contre ces djihadistes, hein, puisque lui, enfin le pays et lui donc il est chiite et les djihadistes sont sunnites, hein, dans cette guerre interreligieuse là. Lui il a critiqué les Américains qui refusaient d'envoyer des troupes au sol. C'est quand même un truc incroyable d'entendre l'Iran critiquer les Américains de pas envoyer des militaires pour taper sur des gens alors qu'ils sont opposés aux interventions américaines depuis toujours, quoi. Mais là ça les arrangerait qu'ils tapent sur les méchants sunnites. C'est pas gagné quand même la paix dans cette région, notamment avec ce genre de comportement. Donc voilà, un petit mot sur cette guerre en Syrie, donc plus de 3 ans, presque 3 ans et demi après le début de cette guerre civile.
On va parler de toute autre chose maintenant, dans un endroit du monde assez éloigné, puisque nous allons partir en Asie et en Corée du Sud pour parler entre autres de la Corée du Nord et surtout de la Corée du Nord. Alors en ce moment se déroulent en Corée du Sud les Jeux Asiatiques d'Incheon, c'est un peu comme des mini Jeux Olympiques, vous voyez un peu le genre. Alors qui dit Jeux Asiatiques dit Corée du Nord, puisqu'effectivement il y a une délégation, 273 Nord-Coréens sont présents pour participer à ces Jeux sportifs. Alors ça a été le fruit de longues discussions avec la Corée du Sud et les organisateurs de ces Jeux Asiatiques. Alors, ce qui est intéressant à côté, c'est de voir un peu quand même comment la Corée du Sud réagit avec la présence de la Corée du Nord. Alors, il faut savoir qu'il y a une loi qui interdit de manifester toute sympathie envers le régime nord-coréen. Et la Corée du Sud a donc interdit, a rappelé en tout cas aux Sud-Coréens qu'ils n'avaient pas le droit d'amener des drapeaux du Nord pendant la compétition. Parallèlement à ça, tous les drapeaux des pays présents ont été retirés de la ville, c'est-à-dire qu'ils sont toujours présents à l'intérieur du stade, mais plus sur la ville. Tout ça parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas contents qu'il y ait justement le drapeau de la Corée du Nord qui s'affiche dans les rues d'une ville sud-coréenne. Donc pour éviter les polémiques et pour passer à toute autre chose, ils ont décidé de tout enlever. Alors le gouvernement sud-coréen a appelé les étrangers voulant manifester leur soutien à une équipe de bien vouloir s'abstenir de présenter des drapeaux nord-coréens. Alors normalement la Corée du Sud devrait pas avoir le droit d'interdire aux étrangers de se balader avec ces drapeaux, mais les organisateurs des jeux ont décidé qu'après tout au vu du contexte particulier, on pouvait bien un petit peu contourner les règles, et donc il vaut mieux globalement pas avoir de documents nord-coréens sur soi, pas de petits badges, de petits drapeaux, de petites casquettes, voyez, ce genre de choses qui sont habituellement bien présents sur les manifestations sportives. Alors, vous allez me dire, mais ils ont quand même 273 athlètes. Des gens qui jouent, oui. C'est même un phénomène, puisque dans un match de foot lundi, les Nord-Coréens, oui, je suis en train de vous donner des résultats, ont battu la Chine, et s'en a épaté quelques-uns, parce que à part dans les années 60 où la Corée du Nord avait battu l'Italie dans un quart de finale en football, depuis on peut pas dire qu'ils aient beaucoup brillé, les Nord-Coréens, quand même, dans différents sports. Alors, il faut dire qu'il y a un vrai phénomène en Corée du Nord. Alors, la Corée du Nord a toujours eu le même truc que la Chine ou l'Union soviétique, c'est-à-dire que le sport, le physique...
Puis ça sert de propagande, de système...
Voilà, il fallait être que le corps il soit bien pour que l'esprit il soit bien, donc ils ont toujours eu ça, sauf que, il y a quand même des choses qu'ils avaient un peu laissé aller. Alors, vous avez certainement en tête les images de ces gens bien en quadrillage, en train de bouger les bras en cadence et tout en même temps. Mais là, il y a un vrai changement depuis l'arrivée de Kim Jong-un. Lui, alors, il se veut jeune, il se veut moderne, dynamique, et donc le sport est censé aller avec tout ça, et en particulier ce sport compétition qui permet aussi à la nation d'exister sur le plan international. Si elle n'a pas de position politique, si elle est toujours exclue, si elle a du mal à se faire entendre, elle essaye, comme bien d'autres par le passé, de passer par une voie sportive. Et puis il y aurait l'idée aussi de donner, c'est un pays de confiance finalement s'il a des athlètes, c'est un peu ça l'idée, regardez, c'est un pays d'ouverture, il laisse ses athlètes voyager. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu de grands investissements qui ont été faits par exemple à Pyongyang au niveau de gros complexes sportifs. On dit que certains sont plus importants que ceux qui peut y avoir à Séoul. Donc il y a beaucoup d'argent qui est donné dans le sport pour un pays qu'on dit quand même que beaucoup d'habitants semblent crever la faim. Ça paraît un peu paradoxal, mais par exemple pour le foot, c'est un vrai succès. Le foot, comme chez nous, n'importe quel terrain, on joue avec un ballon. C'est ce qui se passe aussi en Corée du Nord. Donc je ne sais pas si vraiment il va y avoir une ouverture. Toujours est-il que le sport est devenu un vrai phénomène de propagande en Corée du Nord. On le voit apparaître beaucoup plus à la télévision, les organes de presse évidemment de propagande rapportent les matchs. Voilà, c'est devenu un phénomène un peu. Alors ça permet certainement aussi de cacher bien d'autres problématiques en Corée du Nord, mais c'est aussi une apparition au niveau international sur lequel depuis quelques années la Corée du Nord essaye vraiment d'insister pour faire croire qu'elle est bien. Vous voyez un petit peu l'idée ?
Oui. On va faire notre rubrique ni Dieu ni maître autour des religions, très exactement. On va commencer par les cathos avec le retour du fils de la vengeance du problème des divorcés. Parce qu'il y a une énorme fronde au Vatican en ce moment. Elle est notamment portée par 5 cardinaux ultra-conservateurs, enfin des cathos, quoi, dont Monseigneur Gerhard Ludwig Müller, qui est quand même préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, donc qui est garant, grosso modo, du dogme de la religion catholique. Donc lui et plein d'autres, ils ont pris fermement position contre les ouvertures que le pape François distille un petit peu, notamment en diversant en direction des divorcés remariés et en particulier sur leur accès à la communion. Donc là, il y a un ouvrage qui sort, qui s'appelle « Demeurer dans la vérité du Christ », qui sort normalement le 25 septembre. Ces 5 cardinaux, qui sont les auteurs donc de cet ouvrage, invoquent la loi divine pour justifier leur position. Donc ils expliquent, et je le cite bien évidemment, « Le Nouveau Testament démontre que le Christ interdit formellement le divorce et le remariage. Le mariage civil qui suit un divorce équivaut à une forme d'adultère. Ce sont pas les règles de l'Église, mais la loi divine. L'Église ne peut pas la changer. » Donc d'après eux, tout ce qui est écrit donc dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, ça doit pas être changé. Du coup, il est homophobe. Enfin voilà, parce qu'on se rappelle de tout ce qu'il y a dedans, incitation à la vengeance, à la mort, au meurtre, etc. C'est marrant, enfin c'est marrant, non, c'est plutôt inquiétant qu'il y ait des gens encore comme ça autour de ce pape qui a l'air plus progressiste que les autres, qui soit aussi littéraliste, c'est-à-dire tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est à faire et à respecter. C'est super inquiétant. Alors que le pape François a lancé ces derniers temps une grosse consultation sur plein de sujets, notamment sur les sujets de la famille, et ça aura lieu en octobre cette année et en octobre l'année prochaine, et notamment l'interdiction pour les divorcés remariés de recevoir la communion est censée être au cœur des débats. Alors certains prélats qui souhaitent assouplir la règle sont finalement, ces prélats-là, mis en minorité par les amis des 5 cardinaux là qui ont écrit le livre. Notamment, il y a quelqu'un qui avait fait parler de lui, qui s'appelle le cardinal Walter Kasper, qui est a priori un ami du pape François, qui lui avait déjà dénoncé l'abîme qui sépare la doctrine de l'Église et le vécu de nombreux chrétiens. Donc il était plutôt parti dans l'idée de moderniser la pratique religieuse pour au moins essayer de s'accorder avec la réalité de la vie de la majorité des catholiques dans le monde. Eh ben, il y a eu une réunion de prélats au consistoire. Ils ont voté contre à 85%, parce qu'ils étaient 100, donc il y en a 85 qui ont voté contre l'avis du cardinal Kasper, notamment sur le remariage, enfin l'autorisation aux divorcés de se remarier. Donc, même si le pape fait semblant ou est réellement progressiste, les gens qui l'entourent, a priori, à la grande majorité, le sont pas. Il y a d'ailleurs je crois que c'est lui qui avait dit, il disait, il est paradoxal que des assassins puissent recevoir l'Eucharistie et pas des divorcés remariés. Je sais pas, il n'y a pas une incohérence près dans l'Église catholique. Hein. Mais voilà, donc c'est pour dire que l'ouverture, elle n'est pas pour demain. Alors on change de coin, on change de religion. On va en Turquie. La Turquie qui est qui est condamnée un peu quelque part par la Cour européenne des droits de l'homme sur l'enseignement religieux à l'école. Donc c'est au sujet de la minorité de musulmane, hein, mais de confession alévi, qui est ostracisée et qui est très minoritaire dans l'islam et qui est ostracisée par le gouvernement turc. Alors les faits, c'est l'enseignement de la religion à l'école. Voilà de ce dont il est question. Les juges de Strasbourg, enfin de la Cour européenne des droits de l'homme, condamnent pas la manière dont la Turquie enseigne la théorie islamique. Elle dit ils ont le droit de d'avoir ce parti pris d'inciter certaines particularités d'un certain type d'islam. Sauf que la Cour européenne dit bon, vous faites ça, vous choisissez de faire ça, mais ceux qui sont pas de cette obédience musulmane là, ils devraient avoir le droit d'avoir une dispense. Ce qui est le cas, hein, en Turquie, il faut quand même le dire, pour les chrétiens et les juifs. Les chrétiens et les juifs ont une dispense pour pas assister à ces cours sur l'islam majoritaire, là, pratiqué par les Turcs. Mais cette minorité alévi, elle n'y a pas droit. Donc c'est quand même dégueulasse. Et c'est pour, enfin entre guillemets, c'est pour ça que la Commission, la Cour européenne des droits de l'homme dit à la Turquie, ben voilà, que eux aussi, c'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'ils doivent avoir la version dominante de l'islam enseignée, alors que c'est pas la leur. Voilà. Donc, alors on sait pas du tout si la Turquie va se conforter. On rappelle que c'est pas la première fois que la Turquie est comme ça. Pas vraiment condamné, mais bah, si, c'est condamné quand même par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est arrivé en 2010 sur l'affaire des la carte d'identité. Vous savez, la Turquie, comme de nombreux pays malheureusement dans le monde, ont une case où il y a et il faut indiquer sa religion. Et la Turquie, on a, enfin, y a des gens qui avaient porté plainte en demandant à la Turquie de laisser d'enlever cette case pour que les gens aient de la liberté religieuse, que ça soit pas écrit sur la carte d'identité. Ils ont refusé. Alors même s'il y a des progrès en Turquie, par exemple, les cartes d'identité sont toutes de la même couleur, alors qu'avant les femmes n'avaient pas la même couleur que les hommes. Il y a quelques progrès, mais malheureusement, il y a toujours la religion. Même si on peut obtenir, ce qui est pas facile, mais on peut obtenir qu'il y ait rien d'écrit à religion. Mais voilà, bon, c'est pas encore non plus gagné en Turquie. Et puis pour terminer dans cette rubrique sur les religions, un truc avec le prophète. Je vais vous parler de quelqu'un qui se prétend le prophète. Il s'agit de Tebe Joshua, c'est un télévangéliste nigérian dont un des immeubles de son église s'est écroulé la semaine dernière, vendredi dernier, et ça fait 80 morts. 80 morts, il y a des Nigérians et des Sud-Africains, puis d'autres étrangers, qui sont adorateurs de cette religion, de cette secte, hein, vous l'appelez comme vous voulez. La différence, elle est juste dans la manière dont l'État accepte ou pas la pratique religieuse de ces gens-là. Ça s'appelait la synagogue Church of All Nations de ce prophète Tebe Joshua. Donc forcément, quand ça s'est écroulé, ils ont été un peu bloqueurs sur l'arrivée des secours. Ils ont bloqué pendant 3 jours l'arrivée des secours sur les lieux. Donc l'État avait dit, bah c'était pas normal, il y a des blessés, nous on veut intervenir. Bon, il y a eu un petit conflit. Et du coup, il réagit à ça parce que ça a été médiatisé. Il dit, non mais c'est pas de notre faute. En fait, l'immeuble il s'est écroulé parce qu'il y a eu un attentat. Et il lance des théories conspirationnistes à 2 balles en disant que c'est peut-être Boko Haram qui a fait sauter. Ou alors, bon, il invente plein de choses. Grosso modo, les spécialistes disent que c'est plutôt qu'ils avaient construit des étages, ont rajouté des étages dans le bâtiment sans consolider les fondations. Et d'ailleurs, il y a une enquête de l'inspection des bâtiments pour l'état de Lagos pour vérifier les autres immeubles de cette religion appartenant à Tebe Joshua, pour vérifier que le reste est plutôt... est plutôt en état. À savoir quand même que ce télévangéliste est quand même est plutôt célèbre. Alors il y avait des Sud-Africains parce qu'il est célèbre dans plusieurs États africains et il a notamment des chefs d'État africains qui sont adeptes de cette théorie. Alors il a de cette théorie, de cette religion, il a dit aussi qu'il y avait un avion qui avait survolé le site à basse altitude. Enfin voilà. Bon, pour terminer, il a quand même dit le moment venu, je le cite, Dieu révélera les auteurs de cette malheureuse tragédie. Bon, si c'est lui parce qu'ils avaient rajouté des étages, je sais pas si Dieu va révéler quoi que ce soit, surtout si ça passe par sa voix puisqu'il se prétend comme étant un prophète. Voilà, 3 petites histoires de religion cette semaine.
Alors on va ouvrir une page plus culture, médias, censure et répression, mais avant de parler censure et répression, on va parler de culture numérique. C'est compliqué la culture numérique, hein. Alors c'est compliqué pourquoi? À cause du commerce, il n'y aurait pas de commerce, ce serait pas compliqué.
C'est vrai.
Hein? Non mais c'est vrai. Alors la grande nouveauté en débat actuellement dans la culture numérique, c'est le livre numérique d'occasion. Alors, la dernière discussion nous vient des Pays-Bas, puisque l'association des éditeurs néerlandais et le groupement général des éditeurs ont décidé de faire appel d'une décision de la Cour d'Amsterdam. La Cour d'Amsterdam avait donc été saisie par ces organismes pour agir contre un site qui s'appelle Tom Cabinet, qui s'est ouvert en juin dernier et qui propose de revendre des livres numériques. Alors, ça n'avait pas plu aux éditeurs aux Pays-Bas, hein. Ils voyaient là une concurrence totalement déloyale et que le livre numérique, ça ne se revend pas. Ça peut pas être de l'occasion. Alors, la Cour d'Amsterdam, dans sa décision, n'avait pas donné suite, hein. Donc, dans sa décision, elle faisait du livre numérique d'occasion l'équivalent du papier. C'est-à-dire que, je vous rappelle qu'aujourd'hui, quand vous achetez un livre numérique, vous êtes sous un service qui dépend d'une licence d'utilisation. C'est-à-dire que vous payez une licence d'utilisation. Quand vous achetez un livre dans une librairie, vous achetez un bien, un produit.
Voilà, et vous n'avez pas de licence d'utilisation, vous en faites ce que vous en voulez.
Deux notions vraiment compliquées et qui sont vraiment... Alors là, il y a des débats depuis des mois sur la question.
Oui, et les arguments, il y a des arguments positifs des deux côtés, mais du coup, personne n'arrive à trancher parce qu'on ne sait pas quoi faire avec
Alors,
ça.
Alors là, les Pays-Bas, ils vont devoir se repositionner sur la question. Pour l'instant, ils jugent légal de pouvoir vendre un livre numérique d'occasion, mais en Allemagne, fin août, il y a une décision qui dit que c'est complètement illégal. Donc là-dessus, c'est un petit peu compliqué. En France, Madame Filippetti, sa remplaçante, ne va pas bien améliorer la chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas des positions très franches. Alors maintenant, on a un ministère de la Culture très tourné vers le pro-numérique, donc on va voir si les choses s'accélèrent. Beaucoup, en fait, attendent la décision de la Cour de justice européenne. Une décision importante puisqu'elle a été saisie par des bibliothèques publiques des Pays-Bas qui ont demandé à la Cour de statuer sur la possibilité d'un droit de prêt numérique. Alors c'est encore très compliqué ça aussi. Vous savez que les bibliothèques, elles n'achètent pas des livres comme ça. Elles payent des droits
qui sont beaucoup plus importants que le prix du livre.
Voilà, qui sont des droits parce qu'il y a des droits d'auteur et que nous, derrière, usagers, on va pouvoir aller emprunter ces livres. Donc il y a toute une économie à mettre en place sur ce prêt numérique. Déjà, il va falloir qu'il soit permis. Comment techniquement il va être mis en place? Quels sont les contrats que les bibliothèques vont devoir passer? Quelles sont les négociations qui vont pouvoir aboutir? En faveur de qui? Du lecteur? Des multinationales? Des éditeurs? Enfin, tout. Il y a plein de questions économiques et pratiques qui sont en train de se mettre en place. Donc cette décision de la Cour de justice européenne est très attendue. Il doit y avoir un livre blanc qui va sortir sur la modernisation du copyright, dont le prêt numérique. Donc toutes ces questions sont un petit peu à l'ordre du jour. Alors, ça fait déjà un moment, vous allez me dire, mais c'est vrai que là, ça s'accentue parce qu'il y a des décisions de justice qui vont dans un sens, qui vont dans un autre, et que il y a pas beaucoup de cohésion en Europe sur la question, et que il y a beaucoup de lobbying hein, malgré tout aussi de certains et certaines. Et puis ça permet aussi ce genre d'affaires de rappeler qu'aujourd'hui un bon nombre de services publics dépendent de multinationales. Par exemple, dans le cas du prêt numérique en bibliothèque proposé par le ministère de la Culture français, il faudrait avoir l'Adobe Digital Rider, hein, je vous le dis en entier. C'est-à-dire qu'on vous renvoie vers cette multinationale-là, cette entreprise-là, alors qu'il pourrait y avoir d'autres propositions. Donc c'est aussi aujourd'hui comment tout ça se crée tout en étant largement attaqué de tous bords par toutes les multinationales possibles. Et puis à côté, quel droit on donne quand même dans tout ça aux auteurs, quel argent on va se répartir, comment nous, usagers bibliothèques, on va pouvoir continuer aussi à lire. Est-ce qu'il va y avoir un vrai développement du prêt numérique? Il y a aussi des inquiétudes qui arrivent, en particulier qui est pointée du doigt par des bibliothèques aux États-Unis d'Amérique. C'est bien le prêt numérique, mais eux, ce qu'ils font, c'est un travail, être bibliothécaire. C'est pas juste un lieu où on stocke un livre, on vient le chercher, on passe à la caisse et on rentre chez soi. C'est un lieu, vous avez des conseils, vous avez un accueil, vous avez un travail de choix de l'ouvrage. Donc c'est vrai que demain, ce travail de choix de l'ouvrage, il pourra toujours être là, mais si vous êtes de chez vous à juste cliquer pour récupérer votre livre numérique, vous n'irez plus à la bibliothèque. Donc il y aura plus ce contact-là. Donc eux, ils s'intéressent aussi à ça parce qu'ils s'inquiètent de cette perte. Ils ont un peu peur aussi que les multinationales qui peuvent être dans certains de ces projets récupèrent finalement le lien avec les lecteurs et que qu'ils se retrouvent plus qu'avec des manutentionnaires dans un KGB en train de trouver des livres sans avoir plus aucun contact. Et bonjour la valorisation du travail. Donc voilà, c'est toutes ces questions qui sont un petit peu à l'ordre du jour en Europe, mais aux États-Unis aussi. Ça n'a pas fini de débattre parce que franchement, il y a des lobbies de partout.
Alors on va passer un petit peu sur ce qui se passe en France. C'est ça, non? Oui.
Je crois que tu allais nous parler de la Russie et de la presse occidentale.
Ah mais je l'ai pas sur mon papier ce truc.
Oh bah alors tu nous as zappé un petit sujet.
Ah si, ça y est, je l'ai. Alors oui, un petit mot sur la Russie, c'est arrivé aujourd'hui. Une équipe de journalistes de la BBC qui travaillait dans le sud de la Russie, vers l'Ukraine bien évidemment, qui réalisait un reportage sur des soldats tués à la frontière de l'Ukraine. Ils interviewaient notamment une famille d'un soldat qui a été... qui a été tué. Et bon, ils ont été agressés. C'est dans la ville de Astrakhan. On ne sait pas bien par qui, mais en tout cas, ils ont été tabassés, etc. Et le pire, c'est pas ça. Bon, des journalistes tabassés parce qu'ils font un reportage, ça doit arriver. Bon, ensuite, ils sont arrêtés par la police. Alors que c'est eux qui se font agresser. Et ils passent 4 heures quand même à se faire fouiller, interroger par la police russe. Et la police russe vide la carte mémoire du reportage qu'ils ont fait. C'est quand même beau, la liberté de la presse en Russie. Donc en fait, ils enquêtaient sur un soldat qui s'appelle Kouzmine, qui a été tué à la frontière russo-ukrainienne, d'après une ONG russe qui s'appelle Zabiki Polk, ça s'appelle le régiment, ça veut dire le régiment oublié. Kouzmine faisait partie des nombreux soldats russes venus de Tchétchénie, qui avaient été en Tchétchénie, et qui sont envoyés dans cette région frontalière avec l'Ukraine, et qui ont combattu en traversant la frontière a priori, et qui sont morts dans des circonstances qu'on imagine, mais sur lesquelles enquêtaient ces journalistes. À savoir que aussi, ces journalistes, ils ont été ensuite libérés par les forces de police après l'agression. Ils ont quand même expliqué aussi que les médias russes parlaient jamais de ce qui se passait là-bas, ni de ces militaires russes qui étaient sur ce front, qui est quand même un front de guerre, et l'arrestation des journalistes a priori n'a pas été non plus divulguée. Vous allez me dire, officiellement ils n'ont pas été arrêtés, ils ont été interrogés suite à leur agression, mais en fait ça revient à ça. En Russie, quand on est agressé, on passe 4 heures dans un commissariat de police en garde à vue. Officiellement, il y aurait, d'après les Occidentaux, au moins 200 soldats russes qui auraient été tués dans l'est de l'Ukraine en combattant aux côtés des séparatistes et nationalistes pro-russes. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. C'est pas le premier aussi. Il y a des journalistes russes qui ont subi tout ça, puisqu'il y a un journaliste qui s'appelle Lev Schlossberg qui a été agressé lui aussi par des inconnus, sûrement à l'instigation de l'État russe.
Alors, on va continuer un petit peu dans la culture, on va continuer dans le côté un peu répressif et censure. On va partir à Angers, c'était le week-end dernier, s'est tenu le festival Les Accroche-Cœurs, avec un sous-titre « Les artistes dans la ville ». Et bah ça s'est pas bien passé. Bah non, puisqu'il y a un des spectacles, excusez-moi, de la compagnie Cumulus, qui s'appelle Les Squam, qui a finalement été censuré, déprogrammé, reprogrammé, toute une aventure. C'est un festival municipal. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai passé que vendredi, pendant la première représentation, une bande d'excités religieux est apparue et ils les ont gênés dans leur spectacle. Il y avait déjà eu des envois de courriers, de SMS et de mails à la mairie pour dire qu'il fallait refuser cette compagnie. Alors cette compagnie, qu'est-ce qu'elle présente? Elle présente donc un spectacle qui s'appelle Les Squam, que je vous le disais. La douzaine d'artistes sont grimés en humanoïdes primates. Ils sont enfermés dans les cages. C'est un spectacle que je n'ai pas vu, que j'ai vu que des vidéos. Je préfère vous le dire tout de suite. Alors c'est un spectacle qui fait, je lis l'intention de la compagnie, qui fait écho au phénomène de foire, aux exhibitions ethnologiques qui se sont déroulées il y a moins d'un siècle en France et qui sont encore pratiquées, notamment en Asie. Cette performance théâtrale invite à se questionner sur le regard que nous portons sur l'autre, sur la manière dont on traite la différence et dénonce, sans les nommer, les multiples formes de racisme. Elle confronte le sens critique des passants au discours de l'autorité incarné par les gardiens et à la vie des autres spectateurs. Elle invite le public à réagir, à échanger. Donc, de fait, ça réagit, ça a échangé. Alors, ça n'a pas vraiment échangé, en fait. Hein. Non, c'est pas vrai. Ça a surtout censuré. Alors, ce qui n'est pas très clair, c'est que la mairie a un petit peu eu du mal à s'y retrouver dans tout ça, puisque finalement, vendredi, elle a fait interrompre le spectacle pour problème à l'ordre public, non pas tant sur le spectacle qu'elle avait quand même validé à la base, soulignons-le, mais parce qu'il y avait des gens qui venaient perturber la chose. Ça a été annulé le samedi, puis finalement, il y a eu un petit peu un scandale, c'est-à-dire que les autres compagnies ont décidé que elles interrompaient elles aussi leur spectacle si jamais la compagnie Cumulus pouvait pas donner son show. Il y a eu des discussions toute la nuit, et puis finalement ils ont pu jouer, mais en intérieur. C'est-à-dire que c'est quand même un spectacle de rue, Je tiens à le repréciser si vous ne l'aviez pas compris, si j'avais pas été assez explicite. Donc déjà, jouer dans une salle, c'est un peu pouf-pouf. Et puis, on les a cachés. C'est-à-dire qu'on les a enlevés à la vindicte populaire de quelques-uns, hein, parce qu'elle n'était pas très populaire, en fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce sont des intégristes musulmans qui sont arrivés avec les Corans, accompagnés aussi de catholiques très en verve dans la censure. Moi, ce que j'ai retenu dans cette affaire, c'est l'article du Figaro du 15 septembre écrit par Camille Béglin. Bonjour Camille. Alors c'est tout de suite intéressant comme quand c'est des intégristes musulmans, ça donne une autre ampleur. Non, ce qu'il faut le dire, déjà, sous la photo, le titre était « À Angers, ce week-end, une douzaine d'intégristes musulmans a fait censurer la pièce de la compagnie Cumulus ». Dans le texte, une douzaine d'intégristes musulmans et quelques catholiques révoltés se sont rebellés contre la compagnie angevine Cumulus.
Du coup, les catholiques révoltés, ils n'étaient pas intégristes catholiques, hein, bizarrement.
Non, parce qu'ils nous le répètent beaucoup, le Figue. Hein. Sur la place de la République, à une demi-heure de la fin du premier spectacle angevin de la troupe, les artistes ont été interrompus par une douzaine d'intégristes musulmans, le Coran en main. On nous le redit, hein, parce qu'au cas où on n'aurait pas bien compris. Alors, voilà, c'est-à-dire que là, d'un seul coup, avec le Figaro, on a donc un spectacle qui ne critique pas eux. Hein, attention, ils en disent absolument aucun mal. Par contre, on nous informe bien que c'est les intégristes musulmans, et puis pas trop finalement qu'il pouvait y avoir d'autres censeurs au milieu.
C'est pas la première fois que le Figaro fait des choses racistes non plus.
Oui, parce qu'il faut bien être clair, c'est pas de l'islamophobie, tout ça, c'est de la connerie, c'est du racisme, point final. Alors certes, en face, il y a des intégristes qu'on va pas plus nous aimer, oui. Hein, soyons bien clairs.
Ah oui, parce que du coup, ils sont capables quand même de marcher main dans la main avec les intégristes catholiques.
Ce qui est drôle avec le Figaro, c'est qu'ils se font souvent dépasser par leurs commentaires. Alors hier, à 13h17, il y avait déjà 89 commentaires et l'article était quand même pas très vieux. Ah là 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 là. Alors, on en a des très beaux quand même qui. Alors déjà, il y en a. Bon, évidemment, on a le coup du ah là là, c'est un truc de bobo, la culture. De toute façon, c'est nul. On ne devrait pas financer ce genre de choses. C'est absolument scandaleux.
Ah, des beaux réactionnaires du Figaro.
Ouais, on nous explique. Il y en a un. Alors, par exemple, dans un commentaire qui nous explique que la liberté du créateur artistique est nécessairement limitée à l'acceptation par son public, notamment via l'entrée dans le théâtre. Enfin, c'est-à-dire que si t'acceptes de rentrer dans un théâtre, t'acceptes finalement de voir quoi qu'il se passe. Par contre, c'était dans l'espace public, les artistes de rue n'ont pas le droit d'existence. C'est un petit peu ça quand même le propos. Un autre nous explique donc les subventionnés écolo-socialo-communistes, excusez-moi, c'est dur à dire, hein, qui nous impose une vision marxisante de la société. Non mais on délire hein, des fois dans les commentaires du Figaro. Un autre qui a remarqué, lui, hein, qu'aux intégristes catholiques, il fallait bien les inventer pour équilibrer les choses. Donc là, il s'en prend au Figaro qui a l'air d'avoir glissé les cathos au milieu pour faire bien, comme quoi on n'a pas tous les mêmes réactions face aux articles du Figaro. Dites qui, d'autres qui disent ben, on a, oui, si les gens avaient réfléchi, ils se sont rendus compte que c'était un spectacle qui dénonce le racisme, hein, ce qu'une certaine Capucine 444 nous explique. Par contre, que quelques illuminés décident de tout, marre du sens unique, nous explique-t-elle. Enfin voilà, là on revient du coup à ce racisme musulman qu'on est en France et qui devrait aller vivre ailleurs. Donc voilà, c'est toujours drôle de regarder un petit peu, moi ça me fait un peu pleurer, je vous dis drôle, mais ça me fait un peu pleurer, de voir comment un article du Figaro arrive dépassé par le racisme finalement de ses propres lecteurs, alors que l'article en lui-même est déjà largement raciste, même si finalement on est là pour parler de la censure de la culture et de dire que c'était pas bien de faire ça parce qu'ils ont, sans défendre la pièce, en tout cas ils l'attaquent pas, mais quand même on sent bien que les intégristes musulmans sont plus intégristes que les intégristes catholiques.
Pourtant, l'extrême droite religieuse, hein, quelle que soit la religion, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Bon, c'est facile de dire ça, mais c'est quand même pas loin. Ils ont, étant donné, notamment dans les religions monothéistes, comme ils ont les mêmes textes de référence, ils sont finalement assez proches sur les idées de l'homophobie, de la place de la femme dans la société, etc., etc. Je poursuis avec une nouvelle condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette fois-ci, c'est sur la France, puisque nous avons le fichier STIC, vous savez, cet ancien fichier des infractions de la police qui n'a jamais été vraiment effacé. Notamment, on pouvait s'y retrouver dedans quand on était juste peut-être suspecté d'avoir fait une agression, un truc illégal, et qu'à la fin on était innocenté, et ben c'était pas enlevé du fichier, donc on restait un potentiel criminel. Du coup, la cour a été saisie sur un cas, hein, parce que c'est quelqu'un qui avait été poursuivi pour violence conjugale, et puis que finalement sa concubine s'était rétractée suite à une grosse violente altercation avec avec elle, mais qui ne résultait pas du coup de la violence conjugale. C'est elle qui le disait. Donc il a été innocenté, il n'a même pas eu de procès, rien. Il aurait dû être enlevé du stick, il n'a jamais été enlevé de ce fichier de police. Et il a porté plainte et la Cour européenne des droits de l'homme demande à la France d'arrêter d'avoir des fichiers où dans la case criminelle, on a des gens qui sont pas criminels. Vous allez me dire, on ne devrait même pas avoir de fichiers non plus tout court. Mais ça, c'est un autre débat que nous n'avons pas le temps d'approfondir ici. Voilà, c'est une nouvelle condamnation de la France. Et puis alors, dans la série, la France vire à l'extrême droite avec cette... nouvelle loi pseudo ou soi-disant antiterroriste, hein, contre le terrorisme. C'est la énième, bon, c'est la quatorzième pour avoir donné le vrai chiffre depuis 1986. Toutes ces lois qui réduisent la liberté, les libertés publiques. Ça a commencé, on vous le rappelle, avec Jospin. Hein. Et puis après, il y a eu tout ça, les lois de sécurité intérieure, loi de sécurité machin, etc. La nouvelle a été donc largement adoptée par l'Assemblée française. Un texte qui passe en rapidité, enfin en version rapide, c'est-à-dire qu'il va, il passe une seule fois dans chaque chambre. Donc là, il est passé au Parlement et il va passer ensuite au Sénat à la mi-octobre. Mais alors, il y a une espèce d'alliance de circonstances. L'UMP a soutenu le texte. Il faut dire qu'ils avaient proposé quasi, enfin une bonne partie déjà avant et qui avait été recalé par la gauche, et là maintenant que la gauche est d'extrême droite, c'est bon, ils ont les idées, l'UMP soutient, et même le Front de Gauche, la honte totale, puisque Marc Dolez, il dit, ce texte équilibré concilie efficacité des mesures et respect des principes de droit, soit il est aveugle, soit il est abruti, soit il est payé, soit il y a une raison pour voir de l'égalité des mesures équilibrées dans des textes qui sont liberticides, forcément. Il y a notamment... Alors ils ont inventé plein de choses, hein, l'idée d'entreprise terroriste individuelle maintenant. Il y a toujours ce terme terroriste qui est mal défini dans les lois, notamment dans tous ces textes qui condamnent ces actes de terrorisme. Et notamment, on n'a pas le droit d'en parler et de valider les actes de terrorisme. Du coup, moi je me pose la question, comme c'est pas précisé que c'est les terrorismes musulmans, même si on sait que c'est le djihadisme qui est visé dans ces lois, sont d'ailleurs... limite des lois racistes, parce que voilà, moi je connais pas personnellement, mais on a des histoires en France où on a eu des terroristes. Hein, on rappelle, les résistants, ils faisaient du terrorisme, c'est-à-dire ils terrorisaient la population, ils terrorisaient l'occupant nazi en faisant sauter des trains, des machins, des ponts, des trucs. C'était bien des terroristes, hein, même si moi je les appelle plutôt résistants que terroristes. Ils terrorisaient bien, ils avaient bien la même action que certains djihadistes, pas pour les mêmes idées malheureusement, hein, parce que les djihadistes sont plutôt à l'extrême droite, alors que là on était plutôt de l'autre côté. Quoique pas toujours avec la résistance, mais bon, bref. Si je fais l'apologie des actes de sabotage de la résistance, c'est quoi ? Ben ouais, c'est de l'apologie du terrorisme. Merde. Alors, je vous parle même pas si je fais de l'apologie des actes de sabotage. Hein, on sait qu'il y a eu des actes de sabotage environnementaux, des actes de sabotage contre les patrons, notamment en opposition aux machines. On parle aux luddites en Angleterre, on pense aux luddites en Angleterre ou des choses comme ça, qui étaient des terroristes pour les patrons et pour l'État. Et qu'est-ce qu'on fait ? On peut plus en parler, on peut plus parler des luddites, que leur lutte, elle avait un vrai sens de lutter contre les machines. Et ben voilà. Ces lois, elles font tout ça et elles nous limitent, du coup, notre capacité d'expression. Et puis, il y a en plus ces fameuses censures Internet, puisqu'ils vont pouvoir censurer des sites Internet sans dire quels sont les sites bloqués, sauf ceux qui sont dans les sites sauront qu'ils sont bloqués. Donc, pas possibilité de s'y opposer en justice, ni en amont, ni en aval. Bon, bref, une censure totalement totalitaire. Et c'est pour ça que, notamment, que la quadrature du net est montée au créneau, soutenue par la Ligue des droits de l'homme, Syndicat de la magistrature, Reporters sans frontières, etc., pour dénoncer ce texte, qui est un vrai texte liberticide. Vous allez me dire, c'est le 14e, ouais, ou le 15e. Bah oui, mais les autres étaient déjà terribles, les autres étaient déjà condamnés. Sauf que cette fois-ci, le vote va, il n'y a pas d'élu Front National, mais il y aura un élu Front National, il aurait voté aussi, c'est-à-dire qu'on va de la pseudo-extrême gauche du Front de Gauche jusqu'à la droite ultra droite de l'UMP, hein, on se rappelle la droite populaire qui est limite extrême droite. Ils ont tous voté pour ce texte, quoi. Bon, les écolos, au lieu de voter contre, ils sont abstenus. Bah, on a le courage qu'on peut, mais c'est déjà un petit courage par rapport aux autres traîtres, voilà, qui attaquent les libertés. Bon, c'est quand même un beau recul, voilà, au nom de la lutte contre le djihadisme. Il ferait mieux de faire de l'éducation anti-religieuse pour expliquer aux gens pourquoi les religions en brigade, pourquoi, sans d'ailleurs parler de celle-là, de religion, parler de toutes les religions en général. Et le, à mon avis, l'efficacité serait plus efficace et puis serait plus importante. Et puis surtout, ce serait quand même juste d'éduquer. Et après, les gens, ils se positionnent et voilà. Mais là, on se positionne à la place de la population, du coup.
Ouais, et puis on a rappelé qu'en Turquie, on vous en a parlé les deux dernières semaines précédentes, ça a commencé comme ça, hein, les blocages d'Internet. Donc voilà, on peut aller voir ce qui se passe ailleurs, mais il faut bien voir ce qui se passe chez nous, c'est pareil, hein, c'est des lois fachos, c'est tout simple.
Voilà, alors on continue dans le capitalisme cette fois-ci avec deux petites rubriques, les profiteurs. On va commencer par l'autorité de la concurrence.
Oui, arrivé
qui n'est pas un profiteur, hein, qui dénonce
non,
les profiteurs.
Qui dénonce l'autorité de la concurrence, enfin elle fait ce qu'elle peut, hein, en même temps, elle dénonce, mais bon, derrière. On attend un peu toujours du résultat. Elle dénonce la rente des sociétés d'autoroutes. Il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé des sociétés d'autoroutes. On a perdu du pognon avec cette affaire.
Ah bah, c'est du vol. C'est du vol.
Alors, elle nous explique simplement que quand l'automobiliste il paye 100 euros, et ben entre 20 et 24 euros vont dans la poche
des actionnaires, enfin de l'entreprise. Ouais. C'est rentable hein, quand même.
Ah, c'est très rentable. Alors, il y a un chouette rapport que vous pouvez aller lire sur le site. Je ne l'ai pas lu en entier parce qu'il fait 154 pages. C'est un espèce de gros machin assez. Oh, faut y mettre le nez dedans quand même. Hein. Il y a des parties un peu plus techniques. Elle a publié ça ce mardi. Alors, elle fait un constat assez sévère hein, quand même des sociétés d'autoroute. Elle inclut l'autorité de la concurrence 13 recommandations pour tenter d'améliorer les choses. Alors on vous rappelle hein, c'est des groupes BTP qui sont concessionnaires
et FH, Bouygues, tout
alors,
ça.
Alors on a Vinci, ASF, Escota, Cofiroute, ouais. FH, APPR, APRR, excusez-moi, AREA et puis Abertis, ANEF, SPN, enfin voilà, il y en a beaucoup en France. On fait partie des pays qui ont privatisé comme l'Espagne et l'Italie. Et je voudrais pas vous dire de bêtises, je vous sors mon papier. L'Italie, le Portugal, l'Espagne et la France, le Royaume-Uni et la Croatie ont privatisé l'autoroute. Pour faire simple, il faut savoir que c'est l'Allemagne et la France et l'Italie qui ont le plus de réseaux autoroutiers, les pays qui n'en ont pratiquement pas. Et pourtant, il y en a aussi des grands pays. Donc, bon, c'est pas la majorité hein, des cas. L'autorité, elle critique d'ailleurs cette proximité entre groupes BTP et concessions. C'est-à-dire qu'elle trouve que c'est un peu un problème parce que bah, ils interviennent un peu facilement du coup sur des travaux liés. Alors, elle explique dans son rapport que c'est un secteur qui est caractérisé par une rentabilité très élevée malgré une augmentation limitée du trafic autoroutier. Non seulement il y a moins de bagnoles, mais en plus ils font toujours du pognon. Hein. C'est quand même, il n'y a pas beaucoup d'activités hein, dans lesquelles c'est le cas. L'autorité explique aussi que c'est une activité qui est peu risquée. Donc ça permet des recettes
gagnent à tous les coups.
Croissantes, assez faciles. Alors certes, l'autorité admet qu'il y a une dette assez lourde, mais gérée dans l'intérêt des actionnaires auxquels sont distribués la quasi-totalité des bénéfices des sociétés autoroutières. Joli, hein, pas moi qui le dis. Et alors, il y a écrit une part considérable, et le mot considérable est écrit en majuscule, s'il vous plaît. Hein, la haute autorité, elle rigole pas. Une part considérable du bénéfice est distribuée à leurs actionnaires via des structures financières dédiées afin notamment de rembourser la dette d'acquisition. Bon, enfin, globalement, on comprend que tout va bien financièrement. Même s'il y a une dette, effectivement, c'était un bon pari hein, pour ces groupes du BTP.
C'était pas un pari, c'était des accords avec les politiques. Et voilà.
Oui, mais un bon pari, de toute façon, ça n'existe pas. Soit tu paries, soit tu paries pas, mais globalement, ça reste du principe du pari. Mais quand il y a un bon pari, si tu veux, c'est que, justement, il n'y a pas bien quand même du risque. Donc, elle remet en question les marchés des travaux qui sont, pour une large part, explique-t-elle, attribuée à des entreprises liées selon des modalités discutables. Elle explique qu'il y a aussi un problème avec le prix, le tarif des péages. Enfin, globalement, elle tape un petit peu sur l'affaire, sauf que.
Sauf qu'on peut rien faire, puisque les concessions ont été. Il y en a plein qui ont été re-signées il n'y a pas de nombreuses années et qui ont été signées pour de nombreuses années.
Chez nous, c'est 35 ans, hein, les concessions. Au Royaume-Uni, c'est 50 ans. En Espagne, c'est 60 ans. Tu peux le lire. Incroyable. Enfin, franchement.
Donc, les mecs, ils signent pour une rente de 60 ans.
Parce que là, c'est pour ça qu'il y a une dette, certes. Mais enfin, bon, il y a une belle rente hein, qui est en train déjà de se mettre en place et qui va continuer. Donc, là, finalement, l'autorité de la concurrence demande aussi à ce que ça soit peut-être un peu revu à la fin de ces 35 années de concession et qu'il y ait de nouvelles discussions et puis aussi une plus large répartition des contrats.
Alors on va rester chez les profiteurs, on va passer chez les patrons qui sont bien évidemment les plus gros voleurs, on peut le dire, et j'ai les chiffres, hein, je raconte pas n'importe quoi. Donc c'est un article que j'avais lu dans l'Humanité mais qui est tiré du rapport de la Cour des comptes qui parle de la fraude patronale, hein, parce qu'on parle souvent des chômeurs fraudeurs là, des méchants pauvres qui fraudent la sécurité sociale. Parlons des patrons fraudeurs. Donc travail dissimulé, travailleurs détachés, heures non déclarées, fraude aux cotisations sociales, toutes ces choses-là, c'est d'après la Cour des comptes 20 milliards d'euros par an. Grosso modo, le chiffre c'est entre 16,8 et 20,8 milliards de pertes pour l'État en 2012. Donc ça fait quand même pas mal. Si on élargit aux fraudes à l'assurance chômage et aux retraites, parce que les patrons fraudent aussi l'assurance chômage, on monte jusqu'à 24,9 milliards. Que les patrons volent à l'État français. C'est quand même beaucoup, hein, ça représente 5% des cotisations sociales qui sont dérobées ou détournées par le patronat. Et ça a doublé depuis 2007. Alors il y a une explication, entre autres, que ça a doublé, hein, 2007, la droite, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, suppression d'un fonctionnaire sur deux, du coup il n'y a plus d'inspecteur. Voilà, on a toute l'explication. D'ailleurs, ils vont nous le dire, le rapport de la Cour des comptes. Puisqu'ils nous expliquent, alors ils rentrent en détail, hein, sur le pourquoi, du comment, ces travailleurs détachés qui sont employés par de multiples entreprises en sous-traitance les unes après les autres, du coup ils sont pas payés, très peu payés, enfin voilà, une arnaque totale. Il parle ensuite du taux de recouvrement, et c'est 1,5%. Alors, je vais comparer avec la fraude aux prestations sociales, c'est estimé à 3 milliards d'euros, donc déjà beaucoup moins que les patrons. Et le taux de recouvrement, c'est-à-dire finalement, les fraudeurs, ils volent ou ils fraudent, on peut le dire, 3 milliards d'euros, il y en a 90% de ces 20 milliards d'euros qui re-rentrent dans les caisses parce qu'ils se font choper. Sur les patrons qui volent 20 et quelques milliards, il y en a que 1,5% qui re-rentrent. Hein, parce qu'ils se font pas choper. Et effectivement, puisque Sarkozy et ses amis ont supprimé les inspecteurs de l'URSSAF, notamment en grand nombre, en supprimant un fonctionnaire sur deux. Si on rajoute tout ça à la fraude fiscale, hein, c'est à peu près entre 50 et 70 milliards d'euros, la fraude fiscale, donc des riches et de leurs amis patrons. On a des chiffres astronomiques. Pour donner en référence, si on prend tous ces vols, on est à peu près à 90 milliards d'euros. De combien est le déficit de la France en 2013, l'année dernière? 87 milliards d'euros. Donc si les riches et les patrons ne fraudaient pas, eh ben il y aurait pas de déficit. Et alors pour donner un autre truc, pourquoi il y a du déficit, les entreprises ont de l'aide, 6000 aides différentes existent pour les entreprises qui nous coûtent 110 milliards d'euros. Donc si jamais on arrêtait les patrons et les riches, on les surveillait et ils arrêtaient de tricher et qu'on arrêtait de donner de l'argent pour rien aux entreprises, l'État serait bénéficiaire chaque année d'au moins 100 milliards d'euros. Voilà, si vous cherchez des réponses comment équilibrer les comptes, les gouvernants n'écoutent pas Radio Canu, mais voilà, les solutions sont très simples, c'est juste un choix de ne pas les mettre en œuvre.
Alors, rapidement, pour terminer ce Canu Info, on va parler un petit peu de la chasse à l'œuf. Oui, j'ai fait un petit peu un jeu de mots. On va parler des œufs.
En batterie?
Ouais.
Enfin, c'est les poules qui sont en batterie.
Alors, U, c'est parce que c'est système U, vous savez, les supermarchés. Ouais, ma blague était pourrie, mais écoutez, c'est comme ça, c'est jeudi. Alors, vous avez déjà parlé de l'association L214 dans cette émission. C'est l'association qui a poussé Monoprix en 2013... a retiré les œufs en batterie commercialisés sous son nom, bah elle s'en prend maintenant à Système U. Elle continue, elle est toujours sur le même principe, hein. Elle estime que y a un discours de l'enseigne qui va pas vraiment avec le fait d'avoir des œufs en batterie, hein, puisque dans ces jolies publicités que vous avez peut-être vues, en particulier celles qui passent à la télévision, sont absolument magnifiques, qui parlent de responsabilité, de qualité, de proximité. Enfin, on sent le terroir un peu dans ces pubs, hein, quand même. Ils disent qu'il y a un problème, que c'est que ça ne colle pas à leur positionnement. Nous, on veut bien les croire. Donc ils ont demandé à Système U d'arrêter de vendre complètement des œufs de batterie, qui a estimé Système U que ce n'était pas recevable, hein. L'affaire semble close pour Système U. Le truc c'est que Monoprix aussi au début ils ont dit ça, l'affaire est close, on veut
et
plus en
après,
parler,
ils ont
nous faire voir. Et puis il y a eu pression, ils ont insisté, ils ont l'impression parce que bon c'est leur truc, hein, L214, ils sont beaux en ça, dans un truc de propagande de réaction sur le terrain, ils vont faire des petites manifs, ils sont pas violents, beaucoup sont véganes, ils prônent un discours qui est pas non plus révolutionnaire, qui est pas radical. Je veux dire que voilà, ils arrivent aussi à amener un discours, à être dans la presse, dans les médias, et donc à faire leur petit train-train. Et ben voilà, Système U va bien falloir qu'ils s'adaptent à la situation. Alors, l'association a expliqué qu'elle avait contacté de toute façon tous les marques de supermarchés, hein, tous les distributeurs, hein, Leclerc et Carrefour. Il faut savoir qu'il y a déjà des pays dans lesquels la grande distribution a décidé de ne plus commercialiser les œufs de poule en batterie, hein, en Allemagne, aux Pays-Bas. Voilà, donc il y a du cheminement qui est fait. Ça pourrait être possible. Alors Système U dit que c'est la faute du consommateur parce que comme il est pauvre, il a besoin d'acheter des œufs pas chers et donc des œufs très industrialisés. Bon, on pourrait lui répondre qu'il y a des œufs des pauvres, ils mangent même des œufs bio. Donc allons-y, hein, on peut bien faire sans les œufs en batterie.
Une minute pour parler de Sea Shepherd en Australie.
Nos héros qui ont gagné en Australie, puisque l'agence de protection environnementale australienne va mettre un terme au programme des drumlines. Vous savez, ce sont ces filets qui attrapent les requins, soi-disant pour protéger les baigneurs, les surfeurs et tout ça, et des pays comme les États-Unis d'Amérique qui ont eux aussi mis en place ces systèmes. Je vous rappelle que Sea Shepherd est en guerre avec un certain nombre de surfeurs à travers le monde, justement parce que défendre les requins et que les surfeurs, on ne veut plus pouvoir surfer tranquillos. Alors, tous les surfeurs ne sont pas comme ça, hein, mais c'est pour ça que j'ai bien dit certains. Alors, c'est une bonne nouvelle, hein, pour les requins d'Australie, puisque depuis que ces burn lines avaient été mis en place, dans le cadre d'un programme d'essai de 3 mois, il y avait quand même 172 requins qui avaient déjà été attrapés par ces filets. Donc voilà, ici, Sea Shepherd est surtout content. Ils ont un communiqué de presse, c'était très drôle, limite des fois un peu babacool pour nous dire que les requins, la mer, tout ça, la vie marine, c'est très important.
Alors vite, ouais. Il nous reste quelques secondes pour terminer avec un agenda. 3 infos. Le premier, c'est un repas à prix libre en soutien à la Caisse de solidarité qui aide, hein, les gens qui sont victimes notamment de violences policières. C'est samedi prochain, on sera le 20 septembre au CSAO La Haraga. C'est à partir de 12h jusqu'à 15h. Repas à prix libre, c'est au fond du passage Gonin, c'est pas très loin de Radio Canu. Je crois qu'on part des quais du Rhône en fait, ce passage. Dimanche, marche pour le climat, pour essayer de faire pression sur les chefs d'État qui refusent de mettre en place des mesures pour sauver le climat. Il y a des marches de partout dans le monde. À Lyon, il y en a une. On sera le dimanche 21 septembre. Ça part de la place des Terreaux à 15h pour aller place Carnot. Voilà. Et dernier truc, le groupe lyonnais qui s'appelle l'association France-Palestine Solidarité. Ce sera mardi soir, le 23 septembre à 20h au CCO de Villeurbanne, 39 rue Georges Courteline. Il y a une palestinienne qui s'appelle Firyal, qui vient du village de Taïbed en Cisjordanie, et qui vient expliquer comment cet été s'est passé avec toute la répression qu'il y a eu en Cisjordanie, mais dont on a très peu parlé puisque pendant ce temps il y avait les massacres à Gaza. Donc elle va raconter la vie dans une Palestine toujours occupée par l'armée israélienne. Mardi au CCO, on sera le 23 et c'est à 20h. Voilà, tout de suite, il est 20h passé de quelques secondes. Tout de suite, l'émission La Petite Cuillère. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'équipe du jeudi et demain pour le prochain Canu Info, 19h-20h.
Ciao.